Ça va bien ça? Moi ça va en tout cas. J'étais béni par ce moment de louange et je suis vraiment encore reconnaissant à Dieu parce que il nous donne la possibilité de nous approcher de lui et ça dépend pas de nous, ça dépend simplement de lui qui est fidèle. Et moi je suis heureux d'élever mon âme à Dieu pour le louer. C'est ça la louange, c'est élever son cœur à Dieu et lui dire OK Seigneur. Tout est à toi, tout est pour toi là. Entends nos cœurs qui te louent parce que notre désir c'est de le faire et peut-être qu'on est là, on est parfois assez difficile et je sais pas quelle semaine vous avez passé. Il y en a, je sais, pour qui c'était des examens, ça devait pas être facile et vous êtes là, peut-être vous êtes fatigué et vous avez qu'une chose en tête, c'est peut-être d'être ressourcé pendant cette soirée-là et ben, j'ai envie qu'on soit bénis ensemble et c'est pour ça qu'on va commencer ce On va commencer en fait à vous présenter un petit peu la suite de ce qu'on va faire. Donc c'est sur l'identité, le thème de l'identité. En fait, on a bientôt fini la série. Pourquoi? Parce que bah, on a déjà fait pas mal de messages dessus et la semaine prochaine, on aura Xavier qui fera le dernier message. Moi, j'étais ravi en fait du message que Sandrine a apporté hier. En plus, elle vient d'arriver. Je vais lui faire des éloges. J'espère qu'elle va pas rougir. Mais je veux, non, mais vraiment, c'était béni parce que en fait, elle a commencé déjà. Elle a fait un récap de ce qu'il y avait à faire. La semaine, ah, j'ai dit hier. Ok, tant pour moi. La semaine. Ah ouais, ok. Bon. Ouais, donc la semaine dernière. Merci Lorna. Et elle a fait un récap un peu de ce qui avait été apporté. Et moi, ça m'avait encouragé. Et en plus, le message, comment elle a introduit son message en parlant de la société et du fait que. Alors, qui c'est qui était là la semaine dernière, peut-être d'abord? Ah, il y avait du monde quand même. Vous vous souvenez du message? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oups. Non, j'arrête de vous embêter. Ok. Pour resituer un petit peu et moi ce qui est, et c'est ce sur quoi en fait je veux m'intéresser et ce soir c'est sur justement le fait que elle a commencé par ça en disant que la société elle avait évolué. La société était passée d'une société où on était dans une communauté à une société où on devient de plus en plus individuel. On met en avant l'individu. C'est l'individu qui est à la première place. Et moi, ça m'a interpellé parce que, en fait, c'est exactement de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, parce que je sais, on s'était organisé sur les messages qui faisaient quoi, mais je savais pas du tout avant samedi dernier que Sandrine allait parler de ça. On s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait parler de l'identité, mais pas de ça. Et moi, ça m'a encouragé parce que je me suis dit, ok, là, on va continuer dans cette direction-là, et je crois que Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Ce que je vais vous partager ce soir. C'est quelque chose pour lequel aussi moi-même j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin de grandir avec Dieu. Ce qu'on va voir ce soir, c'est comment la relation avec Dieu peut transformer les relations qu'on tisse les uns avec les autres, alors que celle-ci elle-même nous influence dans notre identité. C'est-à-dire que dans une première partie, je vais vous expliquer un petit peu que les relations qu'on a les uns avec les autres, elles nous influencent, elles nous définissent, elles créent notre identité. Et après, on va voir comment Dieu il peut agir là-dedans. Donc, c'est une suite de la partie « Sais-tu qui tu es ?» Alors, juste pour resituer, parce que je vais me rappuyer aussi un peu sur ce que j'avais partagé la première fois que j'avais apporté un message dessus. C'est comment tu te définis. On avait vu plusieurs critères qui nous permettaient nous aider à nous identifier. Il y avait le nom, le prénom, il y avait la nationalité, l'origine, les parents, les frères, les sœurs, notre personnalité, nos goûts, nos choix, et puis les autres, les amis. Moi, je veux m'intéresser à deux points en particulier, parce qu'on va on va nous pencher sur les relations, et donc on va se pencher en fait sur le lien qu'il y a avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, les autres, ceux qui nous entourent. On va voir l'influence qu'elles peuvent avoir. Et pour ça, on va revenir un peu sur les besoins qu'on peut avoir. Alors, la dernière fois qu'on avait parlé de besoins, en fait, je m'étais appuyé sur un modèle que Maslow avait défini, c'est avec une pyramide. Il avait défini différents besoins. Il les avait même hiérarchisés. Nos besoins, voilà, pour pouvoir vivre au quotidien, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'appartenance, j'ai des besoins d'estime, de m'estimer moi-même, et j'ai des besoins de m'accomplir, j'ai besoin de réaliser des choses. Le point sur lequel nous on va s'intéresser, c'est le troisième, le besoin d'appartenance. Et vous allez voir pourquoi il est hyper important, et c'est ça qui fait que nos relations peuvent nous amener à nous définir, elles nous influencent en tout cas, de telle manière qu'elles peuvent même créer des choses en nous et développer des choses en nous. On avait vu que en s'appuyant justement sur les textes de la Genèse, donc au tout début de ce que Dieu a présenté, il a lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit son vis-à-vis, et il créa la femme à la suite de ça. En fait, Dieu avait vu, même alors qu'il pourrait se dire, Dieu il est en relation avec l'homme, c'est bon, tranquille, hein, j'ai rien besoin d'autre. En plus, à l'homme, on lui a donné toute la terre, il avait la domination sur la terre, il devait se charger de nommer les animaux, il devait faire ça et tout, il aurait pu être tranquille tout seul. Mais non, Dieu a remarqué qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé ainsi la femme. Pour revenir justement à ce que Sandrine avait présenté et l'évolution de la société qui est de plus en plus individualiste, ça peut paraître un peu bizarre. Parce que on revendique une indépendance, et ça peut, on peut se dire ouais c'est normal, on a besoin d'être indépendant, ouais. Et alors que on est dans une société qui tend vers ça, Dieu, la première chose qu'il mentionne, c'est il est pas bon que l'homme soit seul. Et évident que quand on a nos parents, quand on a nos amis, c'est important d'avoir ces relations là. Mais en même temps que on se rend compte qu'on a besoin d'avoir des amis, on a besoin d'avoir des relations, on a envie de cette indépendance un peu. On a envie d'être, je m'affirme. Ah, je commence à prendre de l'autorité sur moi-même. Si bien que même des fois, j'ai plus forcément envie d'accepter l'autorité des autres. C'est d'ailleurs ça quand on passe dans la phase adolescence et qu'on arrive vers l'âge adulte, c'est que on veut développer cette autonomie et du coup on s'écarte de ce que les parents peuvent nous donner, on s'écarte de l'autorité des parents pour s'affirmer. Ouais, je veux m'affirmer. Et on a soif de cette indépendance là. On accepte de moins en moins l'autorité des autres, on accepte de moins en moins l'influence des autres. Pourtant, elle est là. Et moi, ce que je veux juste qu'on puisse faire là ensemble, là, parce que je vais vous demander de réagir, je vois qu'il y en a qui commencent déjà à... C'est bon, vous êtes avec moi ? Première question pour vous. Donc, on va voir comment les autres t'influencent. Ouais, alors, on va pas prendre sur un bout de papier, sinon ça va prendre un peu de temps. J'ai envie d'aller straight to the point, directement au point. Donc, la première. Quelles sont les 5 personnes les plus proches de toi ? Fais ça dans ta tête, là. Ou compte sur tes doigts, ou voilà. Imagine les 5 personnes les plus proches de toi, d'accord ? Celles qui marquent le plus ta vie. Ça peut être tes parents, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être des amis. Pense à ces 5 personnes-là. C'est bon ? Vous les avez en tête ? Maintenant que ces 5 personnes-là, vous les avez en tête, posez-vous la seconde question, et la deuxième et la troisième. Lesquelles t'aident à grandir avec Dieu ? Lesquelles sont croyants ? Lesquelles sont croyants ? Lesquelles t'aident à grandir avec Dieu ? C'est super important. Cette question-là, vraiment, hein, elle est essentielle. Lesquelles, parmi les 5 personnes-là, lesquelles t'aident à grandir avec Dieu, lesquelles t'influencent à t'approcher de Dieu, lesquelles te poussent à aller vers Dieu? Vous en avez au moins une? C'est bien, hein, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important d'avoir des personnes qui nous encouragent à nous approcher de Dieu. Moi, je suis heureux d'avoir des amis et de me dire « Ah ouais, cette personne-là, elle a envie de grandir avec Dieu. » Et ça m'encourage, ça me pousse à m'approcher de Dieu. Parce que, en fait, cette question-là, là, elle va être importante même pour la suite, de se rendre compte que les autres nous influencent et que si on a les personnes qui nous influencent nous poussent à aller partout sauf en direction de Dieu, c'est que là, il faut se poser la question, est-ce que cette personne-là qui est là avec moi, ben comment est-ce qu'elle m'influence vraiment? Est-ce que c'est moi qui l'influence à aller vers Dieu? Est-ce que c'est elle qui m'influence à m'éloigner de Dieu? Qu'on le veuille ou non, ça va vous influencer. Et je vais vous le montrer juste après. Et juste pour revenir sur un point, parce que souvent on veut, en fait, la société même dans laquelle on est, elle nous pousse à nous façonner nous-mêmes, si bien que on se choisit nos amis, on se choisit avec qui on veut être, et on se crée une image, on se crée notre image. Et cette image-là qu'on va développer, elle va aussi dépendre des relations qu'on a, des personnes avec qui on est, de qui on est proche, de qui on est, voilà. Ok. Alors, petite affiche pour vous aider à bien rester avec moi. Ton opinion de moi ne définit pas qui je suis. J'ai vu ça dernièrement, ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a pas fait rire. Ça m'a fait tout de suite penser au message que je voulais vous apporter. Du coup, je l'ai mis dedans. Oui. Comme ça, j'avais une petite envie. Ton opinion de moi ne définit pas qui je suis. D'accord, pas d'accord. Alors, qui c'est qui est d'accord? Qui c'est qui est pas d'accord? Il n'y a qu'une personne qui est pas d'accord. C'est hyper intéressant. Alors maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce que ça implique d'être d'accord? Qu'est-ce que ça implique de pas être d'accord? Alors souvent, on revendique des messages un peu comme ça. Ton opinion de moi ne définit pas qui je suis. Et quelque part, il y a certaines personnes... L'opinion des autres vaut mieux pas qu'elle nous définisse. Sinon, on a vite fait de se tirer une balle. Alors, je le dis comme ça, hein, mais il y a des personnes, parce que il y a des personnes qui sont champions de la critique, et qui peuvent nous dégommer si on porte attention à l'opinion qu'ils peuvent avoir de nous. Et ça peut être mortel, hein. Quand Dieu dit la parole est créatrice, et qu'il a donné ça à l'homme, mais l'homme, il peut créer, il peut détruire avec des mots, hein. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit, hein, d'ailleurs. Et donc, d'ailleurs, ça me faisait penser aussi à Sandrine quand elle parlait des émissions où chacun donnait son avis sur tout. Alors, ça pouvait être un bon avis. Du coup, on était contents, on se réjouissait. Et puis, des fois, on se faisait dégommer. Enfin, je m'inclus pas dedans, hein, mais j'imagine ceux qui se faisaient dégommer. Ça ne devait pas faire plaisir. Alors, du coup, ton opinion ne définit pas qui je suis. Mais pourtant, il y a des personnes, quand elles sont proches de nous, leur opinion, elle nous aide aussi à grandir. Et mine de rien, si moi, il n'y avait pas des amis qui étaient là, des fois, pour me remettre à ma place ou pour m'encourager ou pour... Ou qu'il y a eu mes parents à un moment qui m'ont pas dit « Mais Guillaume, arrête de réagir comme ça, là. Pourquoi tu t'énerves comme ça, là? Mais reste calme. T'as pas besoin de réagir comme ça quand il t'arrive une situation, quand tu vis une situation comme ça. Tu t'énerves là, mais ça rime à quoi? Et heureusement qu'ils avaient, ils avaient à un moment défini ils avaient donné leur opinion là-dessus, sur la réaction que j'avais pu avoir, parce que ça m'avait permis de prendre du recul dessus. En fait, quand on commence à proclamer ça, ton opinion de moi ne définit pas qui je suis, c'est généralement parce qu'on s'est fait tailler. Ah oui, moi j'en suis convaincu, ceux qui revendiquent des choses comme ça, ton opinion de moi ne définit pas qui je suis, qui t'es pour parler comme ça? Mais généralement, les personnes qui font ça, mais elles ont dû avoir mal. Non, vraiment. Hein. Non, parce que les personnes qui réagissent comme ça, en fait, c'est simplement un mécanisme de défense pour ne pas subir à nouveau le fait d'être dégommé parce que l'autre a une opinion de soi. C'est fort, hein. Voyez, commencez à voir un petit peu l'impact des relations, là. L'influence des relations qu'on peut avoir. Quelles sont les 5 personnes les plus proches de toi? Est-ce qu'elles t'encouragent à t'approcher de Dieu? Est-ce qu'elle t'encourage à grandir toi-même? Ou est-ce qu'elle t'éloigne de Dieu? Est-ce qu'elle t'éloigne de ce que tu pourrais devenir, du meilleur que tu pourrais devenir? Ça, c'est vraiment une question à se poser. J'aimerais revenir sur, sur le début de la Genèse, donc la suite. En fait, on va relire une partie du texte parce que on va voir un petit peu comment les relations sont flouées par le péché, comment les relations sont transformées à cause du péché. Et on va reprendre ce passage-là dans la Genèse, là. Je trouve qu'il est, enfin, il est énorme. En fait, juste avant de le lire, on va juste se remettre dans le contexte. Le contexte, c'est que juste avant, là, Ève, elle a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle en a mangé. Elle en a donné à son mari, Adam. Il en a mangé aussi. Et ils ont comment, ils ont, leurs yeux se sont ouverts. Il dit, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont commencé à réaliser qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Et là, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. Je trouve que c'est quand même énorme parce que Dieu dans l'histoire, si on sait que Dieu, il peut tout, il sait tout, pourquoi il lui demande, mais il sait où il est, hein? Il n'a pas besoin de poser la question. Mais l'homme a besoin qu'on lui pose la question, par contre. Dans ce sens-là, c'est la meilleure. Ça, c'est la pédagogie de Dieu, énorme. Le gars, enfin, et Dieu, il est vraiment trop, trop fort. Parce que Adam, après, on va voir comment il réagit. Il dit, Dieu dit, ah oui, alors. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il sait qu'il a mangé. Il sait qu'il a mangé du fruit. Et Dieu lui pose encore la question pour savoir, mais en gros, là, qu'est-ce que t'es prêt à lâcher, là, alors que je te pose la question? Et là, il dit, alors je vais lire là, ce sera mieux. Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. Il balance, direct. Alors, c'est pas moi, c'est elle. Alors attention, hein, aussi fort, la réponse suivante. Alors du coup, Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Alors juste avant qu'on regarde la suite, imaginez, Adam là, il vient de balancer ça à Dieu. Et là, là, Dieu, il se tourne vers la femme. Adam, là, juste, il a dû avoir un sursaut. Il dit, c'est bon. C'est bon, je l'ai échappé belle, là. C'est la femme qui va manger. Mais, oh là là, yes, c'est bon. Et là, l'Éternel dit, pourquoi as-tu fait cela? Et elle répond, c'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Donc, les deux avouent, oui, j'en ai mangé, mais c'est l'autre, là. C'est l'autre, là. Tu vois pas l'autre? C'est à cause de lui. Mais énorme, parce que ça, en fait, face au péché, il y a deux possibilités. Soit on n'assume pas. Ils n'ont pas assumé. Là, et c'est fort parce que c'est le premier péché qui a lieu et la seule chose, la première chose qui vient à l'homme et à la femme, les deux pareils, c'est pas moi. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. Ils veulent pas prendre la responsabilité. Ils assument pas leur péché. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Dans le jardin, là, tous les besoins, là, qu'on a cités, là, avec la pyramide, là, tout ça, c'était rempli. C'était des privilèges que Dieu avait donnés. Et ce qu'on voit, face au péché, les relations ici, elles sont détruites. Le besoin d'appartenance que l'un et l'autre avaient, c'est-à-dire que Adam, il avait sa femme qui lui appartenait et Ève, elle avait son mari qui lui appartenait. Ils s'appartenaient tous les deux. Ils avaient ce besoin-là parce que c'est Dieu qui avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, ce qui est trop fort, c'est que on voit comment les relations, tout de suite, elles évoluent à cause du péché. Et le péché a un impact extraordinaire, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les relations qu'on peut avoir avec les autres. En fait, face au péché, la première chose qui arrive, alors, qui leur est arrivée, c'est la honte, d'abord, parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ils étaient mal. Et après, c'est la division. C'est la division. Et nos relations, pour avoir des bonnes relations, on ne peut pas être divisé. Même dans l'église, là. Face à ça. Et c'est pas que le péché qu'il peut y avoir entre deux personnes. Genre des personnes qui se sont taillées méchants. Et là, ils peuvent pas se blairer. Mais c'est pas que ça, c'est juste le péché qui est là, juste pour une personne, qui peut avoir une influence aussi sur les relations extérieures. Et ça, c'est important que vous réalisiez ça. C'est vraiment important que vous réalisiez ça. Maintenant, la question, c'est quelle est la première relation qui a été détruite? Le? Ouais, mais alors, quelle relation? Entre qui et qui? Entre l'homme et Dieu. La première relation qui a été détruite, avant que les relations entre les hommes soient détruites, entre l'homme et la femme soient détruites, c'est la relation entre l'homme et Dieu qui a été détruite. Remarquez, commencez déjà à remarquer un peu l'impact que la relation avec Dieu ou le manque de relation avec Dieu peut avoir sur la relation qu'on a les uns avec les autres. Vous commencez à voir ça? En fait, la conséquence du péché, c'est l'isolement. Et ça, c'est un mécanisme pour l'homme qui est terrible. Parce que face à l'isolement, il y en a un qui est content dans l'histoire et qui en profite. Parce que quand on s'isole, ben, l'opinion des autres ne définit pas qui je suis. On commence à revendiquer ça. Et du coup, les autres, mais... S'il y avait quelqu'un qui voulait nous aider, qui voulait nous encourager, mais regarde, t'es tombé, mais attends, je vais t'aider à te relever. Oui, t'es tombé, il faut que tu prennes la responsabilité d'assumer le péché qui est là devant toi, mais je veux pas te le mettre en face de toi pour que tu manges à nouveau la terre, mais pour que tu te relèves. C'est ça la réalité quand on est face au péché, c'est qu'on essaye de s'isoler mais qu'on oublie que mais Dieu il veut nous relever premièrement, mais s'il y en a d'autres qui sont là, qui sont en Dieu, si les uns les autres, on peut être là des fois dans des difficultés, il y en a un qui pêche, mais oh, Seigneur, faut pas qu'on juge les uns les autres. C'est pour ça que Paul notamment recommande ça, Jésus recommande ça, on n'est pas appelé à juger les uns les autres, on n'est pas appelé à se critiquer les uns les autres, mais quand il y en a un qui tombe, mais on relève et on se débrouille, on prie pour la personne, on l'encourage, mais faut pas qu'elle reste comme ça. Mais celle la personne qui a pu pécher là, à cause de son péché, le premier mécanisme qui vient, c'est que la personne s'isole. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que quand ça arrive vraiment, le diable, il gagne là. Il gagne. Du coup, quand on voit la situation, on voit que le besoin d'appartenance, il est là. Ils se sont divisés, mais c'est pas parce qu'ils se sont divisés que la parole que Dieu a dite, il n'est pas bon que l'homme soit seul, est fausse. Elle est toujours vraie. Donc ça veut dire que le besoin d'appartenance que l'homme et la femme peuvent avoir est bien présent, bien toujours présent, sauf qu'il n'est pas comblé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous amène à poser la question, qu'est-ce que l'homme est prêt à faire ou qu'est-ce que la femme est prête à faire pour combler son besoin d'appartenance? Sans Dieu, qu'es-tu prêt à faire pour combler ton besoin d'appartenance? Si tu es face au péché, tu es isolé. Donc tu as quand même besoin d'appartenir à quelqu'un. Si tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que tu as honte de t'approcher de lui, de qui tu t'approches? De qui tu t'approches? Quelles sont les 5 personnes les plus proches de toi? C'est ça la question, mes amis. Et je veux aucune condamnation pour ça, mais on a besoin de se poser la question parce que Dieu veut faire une œuvre en nous extraordinaire. Regardons un peu pourquoi ce besoin d'appartenance-là, il est vraiment primordial. Parce que je pense que on a besoin de réaliser ça. Pourquoi on a besoin d'appartenir les uns aux autres? Surtout dans la société individualiste dans laquelle on est, pourquoi c'est important de réaliser que forcément on va essayer d'appartenir à quelqu'un. A-t-on vraiment besoin des autres? Première question, qu'est-ce que le besoin d'attachement? Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire là? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de ça là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une définition qui a été définie en psychologie. Je vais, vous inquiétez pas, je vais l'expliquer, hein. C'est pas des gros mots. L'attachement désigne le comportement de l'individu qui cherche à se rapprocher d'une personne particulière dans les situations potentiellement dangereuses. Ça veut dire que, en fait, le besoin d'appartenance, ça va forcément se traduire par une action, un comportement, quelque chose qu'il va faire. D'accord? Et ça vient, et ce quelque chose qu'il va faire, il va essayer de se rapprocher d'une personne quand ça va pas trop bien. Ou quand il pense que ça peut ne pas aller. D'accord? Ça, c'est ça. Est-ce que vous me suivez là? C'est bon? Ok. On continue. En fait, il y a eu des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Moi, je trouve ça fou parce que, en fait, on a besoin d'avoir des chercheurs là, au XXe siècle pour chercher ça alors qu'on a déjà la réponse depuis plus de 2000 ans avec la Bible qui est écrite. Bon. Après, vu qu'on veut pas faire confiance à la Bible, c'est sûr qu'après, ça devient compliqué d'avoir des bases solides. Et il y a un chercheur, il s'appelle Bowlby, pas Bilbo, ni autre chose. Il insistait particulièrement sur le fait que le besoin d'attachement était aussi important que celui de boire ou manger. Alors pourquoi ? En fait, il y avait eu des expériences qui avaient été réalisées. Alors c'était des expériences un peu malgré eux, hein, ils l'ont pas voulu. Ils l'ont remarqué en fait sur des nourrissons qui avaient été abandonnés. En fait, à regarder le comportement des nourrissons lorsqu'ils étaient dans des orphelinats et qu'on leur donnait juste des soins physiques, qu'on prenait soin d'eux, c'est-à-dire on leur donne à manger, on leur donne à boire, on change leur couche s'ils ont besoin, on les lave, point barre. Et c'est la seule chose qu'ils ont fait, et ils ont comparé ces enfants-là avec ceux qui pouvaient recevoir des soins d'une mère, de l'affection. Et ça, on parle, c'est un autre type de soins, c'est pas les soins physiques, c'est des soins émotionnels. Le fait que une mère prend soin de son enfant, lui fasse des bisous, lui dit je t'aime à son bébé qui est là et la serre dans ses bras, il voit qu'il y a une confiance. Et en fait, ben ils ont remarqué ça, que il y avait trois phases. À cause du fait qu'un enfant n'avait pas quelqu'un pour prendre soin de lui, qu'est-ce que ça provoquait chez lui? Il arrêtait de se développer. C'était une première phase. Deuxième phase, il pouvait refuser le contact après avec les autres. Troisième phase, il pouvait finir par mourir. Et il y en a qui se sont morts. À cause de ça. Si un enfant a besoin de liens affectifs avec les autres, pourquoi ça changerait quand on grandit? Ça change pas. Ça change pas du tout. Et ce que je trouve... En fait, l'enfant, quand on voit ça, mais les séquelles, et c'est ça qui est fou, c'est que donc il y a un arrêt du développement. Mais si l'enfant il meurt pas dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Mais il a des séquelles de extraordinaires. Ces séquelles-là, elles peuvent déformer un homme durant toute sa vie. À cause de ça, il peut être déformé. L'homme, en fait, c'est pas un être indépendant. Faut arrêter d'imaginer ça, en fait. L'homme, c'est pas un être indépendant. Ceux qui luttent contre cela en disant « Non, moi, je suis indépendant », c'est qu'il y a une certaine forme d'orgueil. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que on devient adulte qu'on n'a plus besoin de ses parents et qu'on commence à se développer soi-même qu'on devient indépendant. On devient autonome. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et cette autonomie-là, on a besoin de l'acquérir parce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais on n'est certainement pas indépendant. Vous avez compris ça? Je vais vous raconter maintenant une histoire pour illustrer ce propos et que ça puisse bien s'ancrer en nous. En fait, je vais prendre simplement une histoire qui est dans la Bible, mais je vais pas la lire comme ce qu'elle est dans la Bible. Je l'ai réécrite un peu différemment pour pas que vous compreniez qui c'est directement. Mais d'ailleurs, vous allez peut-être le deviner au fur et à mesure. Je compte sur vous. Vous me le direz à la fin. Mais cette personne-là, justement, c'est un bon exemple de ça, de ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, du coup, comme je l'ai reformulé, j'ai commencé par « Il était une fois ». Il était une fois un jeune homme né dans une famille du peuple d'Israël. Cette famille croyait en Dieu et cherchait à obéir aux commandements que Moïse avait donnés. Cependant, elle avait un dysfonctionnement énorme. Son père ne s'intéressait pas à lui, si bien qu'il l'envoyait dans les champs pour s'occuper des moutons. C'est même à se demander s'il le considérait comme son fils. Là-bas, dans les champs, il était bien seul. Personne ne venait le voir. De toute façon, parmi les métiers les plus dévalorisés, berger devait être dans le top 3. Il grandit alors dans la nature à s'occuper de ses moutons. Il les connaissait tous parfaitement et les aimait parce que lorsque venaient des animaux sauvages, il n'hésitait pas à poursuivre le lion ou l'ours pour arracher la brebis de ses crocs et même de tuer la bête. Il a appris à se débrouiller seul. De toute façon, il devait éviter de rentrer chez lui avec un mouton en moins dans le troupeau. Vu comment son père le considérait, même lorsque cela allait bien, il valait mieux pour lui éviter cela. Il continua de grandir avec ce manque de considération. Cela ne l'a pas empêché de se développer, si bien que lorsqu'il laissait les brebis dans la prairie, il saisissait sa lyre et dédiait sa musique et son chant à Dieu. Il aimait louer Dieu et écrire des chants pour lui. À grandir seul, il s'était attaché à la seule personne qui l'écoutait vraiment, Dieu. Il se confiait en lui et le louait de tout son cœur. Un jour, un homme vint dans sa maison pour annoncer une bénédiction. Le jeune berger n'était même pas là lorsqu'il arriva, mais la prophétie qu'il annonçait était bien pour lui. C'était une grande bénédiction. Une bénédiction, il serait enfin considéré. Mais malgré cette nouvelle, ni ses frères, ni son père n'ont changé d'attitude à son égard et l'ont toujours déconsidéré. Par une heureuse opportunité, ce jeune garçon fut convié auprès du roi parce qu'il cherchait un bon musicien. Finalement, ses journées passées à l'extérieur ont fini par payer. Il commença à jouer pour le roi et celui-ci s'attacha à lui et l'aima parce que lorsqu'il jouait, cela l'apaisait. Le jeune garçon voyait enfin quelqu'un qui le considérait. Il commença aussi à l'aimer, à chercher son approbation. Un peu plus tard, ce jeune homme remporta une grande victoire pour le peuple d'Israël parce qu'il osa affronter un ennemi redoutable. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que c'était pour l'honneur de Dieu qu'il faisait cela. Il était aussi habitué à se battre et n'avait pas peur parce qu'il avait déjà affronté des bêtes féroces pour délivrer ses brebis d'une mort certaine. Après sa victoire, il continua de chercher l'attention du roi qu'il aimait, mais cela ne se passa pas aussi bien. Seul le fils du roi, un grand guerrier, aimait ce jeune berger et s'intéressait à lui. C'était pour le jeune homme son meilleur ami. Un jour, le roi était en colère et chercha à tuer le berger. Ce dernier eut peur et dut s'enfuir loin du palais royal. Encore une fois, il était rejeté. Ce fut pour lui le début d'une poursuite qui ne s'acheva que lorsque le roi finit par mourir. Le berger devint au fil du temps un grand guerrier et mena une troupe. Il finit par devenir roi à la mort de celui qui cherchait à le tuer. Qui c'était ? David. Cette histoire-là, on voit souvent David comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand on considère ça, il a mangé. Il a souffert. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est parce qu'il est important pour chacun d'entre nous d'être restauré dans notre identité et dans les relations qu'on peut avoir les uns les autres. Et vous allez bien comprendre maintenant pourquoi. C'est parce que malgré sa relation avec Dieu, et malgré le fait qu'il soit en communion avec Dieu, parce que d'ailleurs on dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu, il a écrit des psaumes, il a écrit des chants, il a fait des choses extraordinaires, extraordinaires. Pourtant, il a eu des difficultés pendant son règne. Alors, si vous connaissez bien l'histoire, moi je vais vous la raconter, je ne vais pas vous décrire toutes les étapes parce que ça prendrait du temps, mais je vais vous expliquer pourquoi il a des difficultés pendant son règne. Vous savez qu'à l'époque des rois, les rois ils avaient plusieurs femmes et il en avait eu déjà un petit paquet. Alors pas autant que son fils Salomon, mais il en avait déjà eu quelques-unes. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que David, là, il a reproduit exactement ce que son père avait fait. Qu'est-ce que son père avait fait ? Il avait ignoré son fils, déconsidéré son fils. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ça avec d'autres de ses fils. Il les ignorait. Il ne s'occupait pas d'eux. Il en avait plusieurs. Et alors que, et vous connaissez sans doute cette histoire, alors que David justement a péché et a commis l'adultère avec Bathsheba, a couché avec elle, et qu'il a dû tuer Uri, un valeureux soldat qu'il avait, qui était resté fidèle à lui, il l'a tué. Après, il y a Nathan qui est venu le voir et lui a annoncé une parole de Dieu. Et lui a fait comprendre que ce qu'il avait fait, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Et il lui a dit, maintenant, et ça c'est Dieu hein, qui lui dit, maintenant la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé. Ça c'est ce que Dieu dit. Et remarquez bien, hein, si vous connaissez l'histoire, David il s'est repenti. Il a changé de direction, il a changé d'attitude, il s'est humilié devant Dieu, réalisant sa faute, réalisant son erreur. Mais avant même qu'il le fasse, Dieu, il annonce ce qui va arriver. Maintenant, on va essayer de savoir pourquoi. En fait, Dieu, il vient pas pour détruire les gens, hein. Là, c'était pas son amusement, le détruire les gens. Mais il a juste laissé faire ce qui devait arriver par son acte. Je m'explique. David, il couche avec Bathsheba. Il a un autre fils, Salomon. Encore un. Un autre de ses fils, pas trop considéré, et qui cherchait l'attention de son roi, qui ne l'a pas. Ce jeune homme-là, il s'appelait Absalom. Absalom, si vous regardez sa vie, c'est parti en vrille. Absalom a subi les mêmes choses que son père David. Par rapport à lui qui avait subi ça de son père. Vous me suivez? Il avait subi ça, sauf que lui, il n'était pas ancré en Dieu. Et là, ça fait mal, ça fait très très mal. Parce que il dit la conséquence, hein, la violence ne quittera plus jamais ta maison. Ça, c'est Dieu qui annonce ça, mais c'est juste une conséquence directe de son acte. Et c'est pas. Il aura beau se repentir là. Ça arrive parce qu'il y a ça qui est produit. Et s'il n'y a pas un moment, un changement et le fait de se pencher sur le problème, dire Seigneur, t'es grand, t'es tout puissant, je te loue, je t'adore, je suis là avec toi, je suis un homme selon ton cœur, c'est bien, mais si tu vas pas résoudre tes problèmes au fond du fond, ben, tu vas avoir mal après, il va y avoir des conséquences. C'est pour ça que tout ce que, même ce que Sandrine on nous a partagé la semaine dernière sur l'importance, par exemple, de la relation d'aide, de l'accompagnement, mais c'est ça, c'est exactement ça. David, il avait besoin de relation d'aide là. Eh ouais, hein. Le mec, selon le cœur de Dieu, le roi, le gars qui a écrit les plus grands psaumes, le gars qui a amené Israël à régner, à avoir une autorité, une assise, le gars, mais on pourrait tous rêver d'être ce gars-là, sauf que lui, à un moment donné, il a dû faire face à la conséquence de son péché et au développement néfaste qu'il a eu à cause d'un père qui le méprisait. Il a dû faire face à ça. Mes amis, on doit faire face à notre passé. On doit y faire face. C'est pas louer Dieu, merci à Dieu, je te loue au Dieu que ça va s'effacer. Non, 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 non. On peut pas réagir en mode tortue. On rentre dans notre carapace, c'est bon, tout va bien. Puis je regarde là-haut, c'est bon, je vois le ciel, il y a Jésus, tout va bien. Non, non, il y a des choses, à un moment, faut les régler. Et c'est pas impossible, c'est possible. David, il avait des blessures relationnelles qui étaient si importantes que les relations qu'il avait avec les autres ont eu une incidence. Ont eu des de graves, il y a eu de graves séquelles. Maintenant, comment on fait? Et c'est là qu'on va lire ce passage-là. Et que je vais demander à Sandrine de donner un témoignage et elle va expliquer un peu ce passage-là. Pourquoi je demande à Sandrine? C'est parce que mercredi soir dernier, on a eu une réunion de prière et pendant ce temps de réunion de prière, on a approfondi justement ce qui avait été partagé. Et s'il y en a quelques-uns qui ont pu l'entendre, je crois que c'est bien que vous aussi vous l'entendiez. C'est aussi un petit encouragement à ce que vous puissiez venir lors de ces réunions de prière. Considérant évidemment que tous ne peuvent pas venir parce qu'il y a les cours, parce qu'il y a chacun à ses obligations, mais pour vous signifier qu'on a besoin de ces relations les uns avec les autres pour pouvoir échanger là-dessus et grandir sur les messages qu'on a. Il suffit pas de l'entendre, il faut le mettre en application, le message. Est-ce que Sandrine, tu veux bien venir, s'il te plaît?
Bonjour. Alors, en fait, la dernière fois, comme disait Guillaume, on a repris le verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Vous connaissez ce verset? Ouais. Voilà, les choses anciennes. Vas-y, Audi. Les choses anciennes sont passées. Voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai qu'on partageait mercredi soir, on peut avoir une mauvaise compréhension de ce passage où, comme disait Guillaume, on peut se dire, alors puisque maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, ça veut dire que tout ce qui est ancien est passé et ma vie maintenant est nouvelle. Et en fait, si on se dit ça en le prenant comme ça, on peut être très déçu parce que on peut croire que, en fait, une fois que j'appartiens à Jésus, bah voilà, c'est bon. Le passé, c'est passé. Et puis, j'ai plus besoin de m'en préoccuper. En fait, ce qui est intéressant quand on revient sur ce texte, avec le mot « nouvelle créature », le mot « nouveau », en fait, dans le grec, il y a deux façons de voir ce mot. Il y a « néo », qui veut dire vraiment « nouveau ». C'est le terme qui est employé pour dire « quand Dieu créa les cieux et la terre, voilà, il y a eu quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a eu un impact. Avant, il n'y avait rien. Dieu a créé les cieux et la terre. Là, c'est nouveau. Il y a un acte de création. Il y a quelque chose de nouveau. Ça va, ça? Ok. Et autrement, il y a dans ce mot nouveau, en fait, en grec, il y a aussi kainos. Et là, kainos, en fait, ça décrit un nouvel aspect de quelque chose déjà existant. Ça veut dire que mon passé est mon passé. Il est déjà existant, mais il va se passer quelque chose de nouveau avec. Alors, encore une fois, c'est pas magique. C'est pas comme si notre passé était derrière et puis comme s'il avait jamais existé. Mais en fait, ça veut dire que ce passé a besoin d'être renouvelé. Il a besoin d'être relu, revisité de manière nouvelle pour être guéri, en fait, des blessures de notre passé. Ça veut dire qu'en fait, on reste la même personne. On reste la même personne, vous avez des dons, vous avez des qualités. Et en fait, de par votre histoire, de par votre vécu, ces dons et ces qualités que Dieu a placées en vous ont été abîmés, en fait. Donc, ça veut dire que vous êtes toujours la même personne, mais ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va être renouvelé par l'Esprit de Dieu en nous, complètement renouvelé. À la lecture de notre histoire, on va être renouvelé, en fait. Ça nous transforme, mais on ne devient pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire, par exemple, moi, je ne vais pas devenir Elmi. Et pourtant, je connais les dons et les capacités, enfin, certains, d'Elmi, mais je ne peux pas devenir Elmi, puisque je ne suis pas Elmi. En fait, je reste moi-même, mais celui que j'étais avant va être renouvelé et va devenir libre. Libre parce que, en fait, si je me fais aider, comme dit Guillaume, si j'entame une relation d'aide, ça veut dire voir quelqu'un, dire ce qui nous blesse, et la personne, comme elle n'est pas dans l'émotion, vous, quand vous êtes dans l'émotion, vous êtes blessé, quoi. Tout le monde a été blessé. C'est impossible que quelqu'un n'a pas été blessé, parce que nous sommes tous humains. Et quand j'ai été blessée, en fait, je suis plein d'émotions. Et du coup, ma raison ne peut pas venir. C'est comme si, vous voyez, et tout le monde a fait de la pâtisserie avec un verre doseur, par exemple. Vous voyez, un verre doseur, il y a des dimensions dessus. Quand vous êtes dans l'émotion, votre verre doseur, il est plein, plein, plein. Ça veut dire, on vous a critiqué, on a dit du mal de vous. Eh bien, la colère, elle est bien là. Et il faut qu'il y ait la colère pour avoir réaction. Autrement, ça voudrait dire qu'on a un gros problème, en fait. Ça, c'est vraiment là, c'est un autre problème. Donc, mon verre doseur, il est plein. Est-ce que si votre verre doseur, il est plein de farine, vous pouvez mettre de la levure dedans? Non, il est plein. Donc, il faut que quelqu'un vous aide à vider votre verre doseur de l'émotion que vous avez pour que la réflexion, en fait, puisse arriver. Et pour ça, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pas possible. Il faut être aidé. Alors, il faut être aidé par quelqu'un qui va en fait entendre ce que vous avez vécu. Et lui, comme il l'entend, il n'est pas dans l'émotion, ben, il va pouvoir reformuler ce que vous avez dit et vous allez dire « Ah oui, c'est ça que j'ai ressenti et c'est ça que je vis ». Ça permet de prendre de la distance. Et nous, en plus, l'avantage que nous avons en plus, c'est qu'en fait, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va vous aider, il va vous donner la force, il va vous donner le courage d'avancer. Parce que comme dit Guillaume, et ça c'est extraordinaire, c'est que c'est possible de changer. Ça c'est possible. Vos dons, vos talents, qui vous êtes ne vont pas changer. Mais vos souffrances peuvent changer et vos attitudes vont changer. Puisque vous n'aurez plus la même réaction. En fait, on est transformé. On est transformé, les choses nous atteignent plus, en fait, puisqu'on sait qui on est. Aujourd'hui, je sais que je suis fille de Dieu et je sais que Dieu m'a voulu, qu'il m'a aimé. Tous les versets que tu nous as donnés, en fait, voilà, qui sont là. Ah oui, voilà, là en bas, les feuilles à disposition. Mais il faut se nourrir de ça. Quand Guillaume, il vous dit, il faut... En fait, l'idéal, c'est de savoir qui sont les personnes les plus proches de toi. Quelles sont ces personnes qui vont te ressourcer? Mais c'est ça, ça en fait partie. Ça veut dire que ces versets, il faut les connaître par cœur, par cœur, par cœur. Et quand vous avez un missile qui arrive en face de vous, parce qu'on en reçoit tous des missiles, je suis une créature de Dieu. Voilà, connaissez ces versets, c'est votre pain, quoi. Et puis quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Je vais pas voir quelqu'un qui je sais va critiquer cette personne. Mais je vais plutôt voir quelqu'un qui aime cette personne. Et on va prier pour elle, on va... Vous voyez, ça change en fait. On change notre état d'esprit, on change notre façon d'être. Voilà.
Merci beaucoup Sandrine. En fait, à travers ces versets, en fait, la première personne avec qui vous devez être en relation et qui doit être la plus proche de vous, c'est Dieu, parce que ça, c'est sa parole. Et c'est ça, hein, la première personne la plus proche de vous. Je ne sais pas si vous avez répondu Jésus à un moment donné, mais vous n'y avez peut-être pas pensé, mais je crois que c'est important que cette relation-là, elle soit établie premièrement. Mais c'est aussi pour ça que Dieu a voulu l'Église et qu'il a placé Jésus à sa tête. C'est que nous puissions nous encourager les uns les autres, que par l'amour que l'on ait les uns les autres, on puisse grandir, on puisse lâcher le passé qui est là derrière nous et avancer, courir vers le but. Parce que Dieu met ça en nous, il met en nous cette espérance, mais on a besoin de le vivre. Donc ceux qui voudront, je laisserai ça à disposition, je le mette à côté, quoi. Ce sera juste là. Donc ceux qui en voudront, vous pourrez prendre, parce que j'ai déjà distribué ça à un moment donné, mais si vous ne l'avez pas eu, prenez-le. Pour finir avec ça, et je vais prendre ce verset-là dans Romains. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La société actuelle, et on l'a décrit au tout début, elle nous pousse à vivre en tant qu'individu, individualiste, de manière individualiste. On n'a pas besoin des autres, l'opinion des autres compte pas, je peux me débrouiller tout seul. On n'est pas appelé à ressembler au monde. On n'est pas appelé. Mais on est appelé à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, et l'intelligence, on l'a, la sagesse, on la développe en chérissant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en cherchant Dieu, en louant Dieu, en cherchant des personnes qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu, qui cherchent Dieu. Parce que si on choisit pas ces personnes-là, on va être entraîné à droite, à gauche. C'est pour ça que je suis heureux que vous soyez venus ce soir. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que vous êtes les uns en relation avec les autres. Et ça, c'est l'Église. Et ça, c'est bon. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Quelles sont les 5 personnes les plus proches de vous? Gardez ça en tête. Faites peut-être une analyse. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des personnes qui me poussent à m'éloigner de Dieu? Est-ce qu'il y en a d'autres qui me poussent à m'approcher de Dieu? S'il y a des personnes qui vous poussent à vous éloigner de Dieu, vous allez y perdre des plumes. Vous allez souffrir. Ou alors, et croyez pas que, parce que souvent on dit le raisonnement, ouais, mais c'est moi qui vais l'influencer, c'est moi qui vais l'amener à Dieu. Ah, mais pour ça, vous avez besoin d'être transformé. Même David, il a prié, il en a eu pour son grade à cause du péché qu'il n'avait pas résolu. On a besoin d'être ressourcé, on a besoin d'être transformé. Et c'est ça, et c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Et vraiment, je veux que on puisse s'approcher de Dieu là. On va reprendre un temps de louange. Je vais inviter les musiciens, Marcel, à venir. On va prendre ce moment-là et s'approcher de Dieu. Regardons à Dieu. Peut-être face-là, parce que ce que j'ai pu vous présenter là, ça peut peut-être être résonné dans votre cœur et ça peut peut-être être dur avec vous. Quand on était en train de dire avec Sandrine que vous avez besoin de personne pour vous aider, la première personne à qui vous avez besoin de confier ça, c'est à Dieu. D'accord? On n'est pas là dans une attitude où on se dit non, il n'y a plus besoin de Dieu, on va faire ça avec un psychologue. Non, 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 non. La première personne qui doit voir ça, c'est Dieu. Et je vous invite ce soir à ce que chacun, on puisse se lever ensemble, qu'on puisse louer Dieu, qu'on prenne ce moment et qu'on dépose tout devant Dieu, qu'on puisse le louer. Seigneur, attire-moi à toi. Ne me laisse pas, si on pourra reprendre ce chant-là, s'il vous plaît. Et prenons ce moment-là. Gardons en tête que la relation avec Dieu est la plus importante et que les relations avec les autres qu'on peut tisser, elles sont aussi importantes parce qu'on en a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Vraiment, profitons, louons Dieu, levons-nous ensemble.